Laudetur Jesus Christus.
La rotation des mandats dans les associations de fidèles catholiques instaurée par le Vatican, promulguée ce midi par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et approuvée par le pape, le décret vise à promouvoir une saine rotation des postes gouvernementaux afin que l'autorité soit un authentique service de la communion contre le risque de personnalisation. Ouverture du G7 en Angleterre, les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés vont tenter de se mettre d'accord sur une réponse collective aux crises mondiales et essayer de réaffirmer leur leadership en prévision du G20 et de la COP26, la conférence des nations sur le climat. Après 8 ans d'engagement massif, un retrait progressif au Mali, fin de l'opération militaire française Barkhane, annoncée hier par Emmanuel Macron. Paris souhaite réarticuler la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Et puis enfin, une journée de jeûne et de prière aujourd'hui pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso, initiative du cardinal Philippe Ouédraogo après le pire massacre de civils qu'a connu la semaine dernière le pays depuis 2015. Pourquoi cette zone est-elle si concernée par ces actes terroristes? Analyse dans quelques minutes.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, un nouveau règlement du Vatican pour les associations et mouvements catholiques. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a publié ce midi un décret à force de loi. Le texte sera contraignant pour toutes les associations de fidèles et entités reconnues ou érigées par le dicaster. Il prendra effet dans 3 mois. De nouvelles dispositions qui visent, Cyprien Viette, à favoriser une meilleure rotation dans ces mouvements, dont certains ont connu des crises liées à des abus de pouvoir.
Oui, Delphine, l'objectif du décret est de promouvoir une saine rotation dans les postes à responsabilité afin que l'autorité soit exercée comme un service authentique qui s'articule dans la communion ecclésiale. La règle du mandat quinquennal devra s'appliquer partout avec un maximum de 2 mandats consécutifs, soit 10 années au total, et les associations qui ont institué des durées plus longues devront donc réviser leur règlement. Les priorités sont le respect de les libertés personnelles, le dépassement de l'autoréférentialité, de l'unilatéralisme et de l'absolutisme, la promotion d'une synodalité plus large ainsi que le bien précieux de la communion. Dans certains mouvements ont en effet été observés des cas de violation de la liberté des personnes. Un mauvais exercice de la gouvernance crée inévitablement des conflits et des tensions qui blessent la communion, affaiblissant l'élan missionnaire, précise le dicaster. La rotation des mandats devrait donc permettre un meilleur dynamisme au sein de ces mouvements, mais quelques dérogations pourront être accordées pour certains fondateurs de communautés. Au total, 109 entités spécifiques placées sous la supervision de ce dicaster sont concernées par cette évolution, ainsi que des organisations comme le Chemin néocatéchuménal ou encore CARIS, le Service international du renouveau charismatique catholique, qui devra donc montrer l'exemple pour tous les mouvements sur lesquels il exerce un rôle de coordination.
Merci beaucoup, Cyprien Viette. Dans le reste de l'actualité vaticane, un nouveau préfet à la tête de la congrégation pour le clergé, Monseigneur Lazzaro Yu-Uxik, jusqu'à présent évêque de Daejeon en Corée du Sud, a été nommé par le pape. C'est le premier archevêque sud-coréen à occuper une fonction aussi importante à la curie romaine. Il remplace le cardinal Beniamino Stella, âgé de 80 ans. De nouvelles nominations aussi dans l'Église de France. Le pape a désigné Monseigneur François Fondelupt pour prendre la tête de l'archevêché d'Avignon. Il était alors jusqu'alors évêque de Rodez. Et la seconde concerne Monseigneur Didier Noblot, nommé évêque de Saint-Flour dans le Cantal en Auvergne. Il était quant à lui jusqu'à présent prêtre du diocèse de Troyes. Plus d'informations sur toute cette salve de nominations à l'adresse vaticannews.va. Les dirigeants de la planète réunis en sommet au G7 pour parler vaccins et climat, une première depuis le début de la pandémie. La réunion a lieu dans les Cornouailles, en Angleterre. Une volonté d'unité affichée qui risque d'être assombrie par les tensions qui opposent au grand jour les Européens au Royaume-Uni sur l'application du Brexit en Irlande du Nord. Mais au programme officiel figure surtout la reprise d'une économie mondiale laminée. À Londres, Jean Jaffré.
La lutte contre la pandémie de la Covid-19 et le changement climatique sont en tête de l'ordre du jour du G7. Face à la multiplication des appels à la solidarité, les dirigeants devraient s'accorder pour fournir au moins 1 milliard de doses de vaccins et à augmenter les capacités de production d'ici fin 2022. Selon Oxfam, au rythme actuel des vaccinations, il faudrait 57 ans aux pays à faible revenu pour atteindre le même niveau de protection que celui des pays du G7. Mais les participants ne sont pas d'accord sur une suspension temporaire des brevets des vaccins. La lutte contre le changement climatique est la seconde priorité. Le Premier ministre britannique envisagerait un plan ambitieux pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone et préserver la biodiversité. Ces objectifs seront mis sur la table des négociations à la grande conférence conférence des Nations Unies sur le climat en novembre en Écosse. Figure aussi à l'ordre du jour la relance de l'économie mondiale, la lutte contre la corruption et la cybersécurité. Restent aussi les grands défis géopolitiques posés notamment par la Chine et la Russie. Les sept pays les plus avancés entendent se présenter comme un front des démocraties face à la montée des régimes autoritaires et populistes dans le monde. Long Jean-Jaffré, Radio Vatican.
La demande mondiale de pétrole en bonne voie pour dépasser le pic d'avant-pandémie, c'est ce que prédit aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie. Elle juge ainsi que la fin de la pandémie est en vue dans les pays développés, mais que le faible rythme de vaccination pourrait toujours remettre en cause la reprise dans d'autres pays. L'annonce était attendue, elle n'en reste pas moins fracassante. Emmanuel Macron, hier soir, annonce la fin de l'opération Barkhane, la force militaire de plus de 5000 soldats français qui, depuis 2013, luttent dans la région contre les filiales locales de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Paris compte désormais sur une internationalisation de la formation des armées locales et des opérations antiterroristes confiées aux forces spéciales françaises. Marie-Christine Bonzon.
Emmanuel Macron a indiqué que les soldats de la force Barkhane vont entamer un retrait progressif. Pour autant, l'armée française restera au Sahel, mais avec ce qu'Emmanuel Macron appelle un nouveau cadre. Selon M. Macron, il y aura désormais, je cite, « une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et puis la lutte contre le terrorisme qui sera menée par des forces spéciales composées de Français, de forces africaines, européennes et internationales ». Le président Macron n'a pas fourni de calendrier ni pour le retrait de Barkhane, ni pour la mise en place du nouveau cadre d'opération. La classe politique française et le gouvernement français cherchent depuis longtemps à sortir leur pays d'un engagement militaire de plus en plus considéré comme un bourbier. La mort d'une cinquantaine de soldats français, le coût financier du déploiement, l'absence des États sahéliens dans les zones reprises aux filiales de l'État islamique et d'Al-Qaïda ont alimenté la frustration à Paris. Frustration renforcée par la mort d'Idriss Déby et par le projet du nouvel homme fort du Mali qui envisage de négocier avec les groupes islamistes. Cependant, M. Macron affirme que sa décision de repenser le déploiement militaire français au Sahel n'a rien à voir avec l'élection présidentielle prévue en France dans moins d'un an. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
30 000 enfants en danger de mort au Tigré. L'UNICEF alerte aujourd'hui sur le haut niveau de la famine qui se répand dans cette région éthiopienne. Hier, plusieurs agences humanitaires de l'ONU affirmaient que des millions de personnes de cette province ont besoin d'une aide alimentaire, dénonçant le blocage de cette aide par des groupes armés. Journée de jeûne et de prière demandée aux fidèles ce vendredi par le cardinal Ouédraogo pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso. Cette invitation intervient après le pire massacre de civils qu'a connu le pays depuis 2015. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier, entre 132 et 160 habitants, selon les sources du village de Solane, dans l'Est, ont été tués par des inconnus. Pourquoi cette zone est-elle si concernée par des actes terroristes? La réponse de Tanguy Kideler, il est chercheur à l'université Paris-Nanterre.
C'est une région périphérique qui a été longtemps abandonnée par les services de l'État et qui s'inscrit dans une longue histoire de violence. Vous aviez toujours des trafics, du banditisme, ce qu'on appelle les coupeurs de route qui détroussaient les commerçants, les gens qui transportaient du bétail, etc. Et ça s'inscrit aussi dans des conflits micro-locaux autour des questions d'orpaillage. Donc, c'est-à-dire que le contrôle des sites aurifères par des groupes armés est aussi extrêmement important en termes de gouvernance locale, parce que ça vous permet d'obtenir des ressources, donc d'acheter du matériel, de gagner en autonomie, etc.
Faut-il plus du coup de présence militaire aussi bien burkinabé que peut-être étrangère, notamment par exemple les troupes françaises de Barkhane?
Le problème, c'est qu'on est déjà dans un embouteillage sécuritaire. La France intervient déjà au Burkina Faso via l'opération Barkhane, mais aussi avec l'opération Sabre. Et malheureusement, aujourd'hui, le G5 Sahel n'est pas en capacité de répondre à ce type de problématique. Donc il y a un dialogue à instaurer avec les populations et aussi que l'armée soit un véritable bouclier en fait et ne participe pas non plus à faire monter l'insécurité pour des populations locales qui sont déjà durement éprouvées.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. La décision est symbolique mais acte d'un nouveau pas dans les relations entre le Danemark et le Groenland en zone arctique. Copenhague a décidé hier de laisser le territoire autonome occuper le premier rang lors du Conseil de l'Arctique, ce principal forum régional du Grand Nord. Jusqu'à présent, le Danemark s'exprimait en premier. Depuis maintenant son accession à l'autonomie en 1979, le Groenland augmente peu à peu ses prérogatives. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Avec intérêt, je l'espère, l'actualité du pape de l'Église et du monde revient dès 18h, présentée par Marine Henriot. Excellente journée.